Les anneaux du pouvoir et le troisième âge. Où ces récits viennent à leur fin. Il y avait anciennement Sauron le Maya, que les Sindar du Beleriand nommaient Gorthaor. Au commencement d'Arda, Melkor le fit passer sous son allégeance et il devint le plus grand et le plus loyal des serviteurs de l'ennemi et aussi le plus redoutable car il pouvait revêtir de nombreuses formes. Et il garda longtemps le pouvoir de se présenter sous un jour noble et avantageux et seuls les plus méfiants ne s'y trompaient pas. Quand le Thangorodrim fut brisé et Morgoth jeté à bas de son trône, Sauron se redonna belle apparence et rendit hommage à Eonwë, le héros de Manwë, et il renia toutes ses mauvaises actions. Et d'aucuns soutiennent qu'il ne s'agissait pas d'une feinte, du moins au début, que Sauron s'était véritablement repenti, ne fût-ce que sous la terreur, secoué par la chute de Morgoth et par le courroux des seigneurs de l'Ouest. Mais Eonwë n'avait pas autorité à pardonner à ceux de son ordre, et il ordonna à Sauron de rentrer en Aman pour y entendre le jugement de Manwë. Alors Sauron fut pris de honte, et il ne voulut pas s'humilier à retourner devant les Valar pour obtenir sentence et s'astreindre sans doute à une longue servitude en gage de sa bonne foi. Car sous Morgoth, un grand pouvoir avait été sien. Après le départ d'Eonwë, donc, il se cacha en terre du milieu et il retomba au service du mal, car les liens dont Morgoth l'avait chargé étaient très étroits. Dans la tourmente de la grande bataille et de la chute du Thangorodrim, la terre fut prise de violentes convulsions et le Beleriand fut brisé et dévasté. Et de nombreuses terres, au nord et à l'ouest, sombrèrent sous les eaux de la grande mer. Dans l'est, en Osiriand, les murs des Ered-Luin se fissurèrent et au sud de la chaîne, il apparut une grande brèche par où la mer s'épancha en un golfe. Le fleuve Lûn, descendant par un nouveau cours, s'y déversait, ce pourquoi on l'appela le golfe de Lûn. Ce pays était depuis longtemps nommé Lindon par les Noldor, et c'est le nom qu'il porta désormais. Et de nombreux Eldar vécurent là-bas et s'y attardèrent encore un long moment, refusant d'abandonner le Beleriand où ils avaient si longtemps peiné et combattu. Gil-galad, fils de Fingon, était leur roi. Et auprès de lui se trouvait Elrond, le semi-elfe, fils d'Earendil, le marin, et frère d'Elros, premier roi de Númenor. Sur les rives du golfe du Lûn, les elfes construisirent leur havre, qu'ils nommèrent Mithlond. Et ils y gardaient une flotte nombreuse, car les havres gris offraient un bon mouillage. De temps à autre, les Eldar prenaient la mer là-bas, fuyant la noirceur des jours de la terre. Car par la grâce des Valar, les premiers-nés pouvaient encore emprunter la voie droite et, s'ils le voulaient, rejoindre leurs semblables à Eressëa et en Valinor, au-delà des mers encerclantes. Il y en eut d'autres parmi les Eldar qui franchirent les montagnes d'Ered-Luin au cours de cet âge et qui gagnèrent les terres intérieures. Nombre d'entre eux étaient des Teleri, des rescapés du Doriath et de l'Osiriand. Et ils fondèrent des royaumes chez les elfes sylvains dans les forêts et les montagnes loin de la mer, pour laquelle ils conservaient néanmoins une grande nostalgie. Ce n'est qu'en Eregion, que les hommes appelaient la Houssière, que les elfes noldorins établirent un royaume de quelque longévité au-delà des Ered-Luin. Eregion se trouvait tout près des grands palais des nains qu'ils appelaient Khazad-dûm, mais que les elfes nommaient Adodrond, et plus tard Moria. La grande route qui sortait d'Ost-Inedil, la cité des elfes, menait à la porte ouest de Khazad-dûm, car il se tissa une grande amitié comme il n'y en eut jamais nulle part ailleurs entre les elfes et les nains, pour le plus grand profit des deux peuples. En Eregion, les artisans du Gwaith-Imirdain, le peuple des joailliers, atteignirent à un savoir-faire jamais égalé par leur père, hormis Fëanor lui-même. Et le plus habile d'entre eux n'était autre que Celebrimbor, fils de Curufin, lequel avait désavoué son père en restant à Nargothrond après que Celegorm et Curufin en eurent été chassés, comme il est raconté dans la Quenta Silmarillion. Ailleurs, en terre du milieu, la paix régna pendant maintes années. Or, la plupart des terres restaient désolées, encore à l'état sauvage, sauf là où les gens du Beleriand venaient s'installer. De nombreux elfes y habitaient, certes, comme ils l'avaient toujours fait de temps immémorial, errant à leur gré dans les vastes contrées loin de la mer. Mais c'étaient des Avari, pour qui les tribulations du Beleriand n'étaient qu'une rumeur, et le Valinor un nom éloigné. Et au sud et plus loin à l'est, les hommes se multipliaient, et la plupart d'entre eux se tournaient vers le mal, car Sauron était à l'œuvre. Voyant la désolation du monde, Sauron se dit en lui-même qu'après avoir renversé Morgoth, les Valar avaient de nouveau oublié la terre du milieu, et il retrouva peu à peu de sa superbe. Il regardait les Eldar avec haine et craignait les hommes de Númenor dont les navires revenaient de temps en temps sur les rivages de la terre du milieu. Mais pendant longtemps, il scella ses pensées et dissimula les noirs desseins qu'il formait en son cœur. Il savait les hommes plus malléables que tous les autres peuples de la terre, mais il chercha longtemps à gagner les elfes à son service, n'ignorant pas que les premiers-nés détenaient le plus grand pouvoir. Et il allait partout les visiter, encore sous la semblance d'un être gracieux et sage. Il n'y avait qu'au Lindon qui ne se rendait pas, car Gil-galad et Elrond se méfiaient de lui et de ses plaisants dehors. Et bien qu'il n'ait su vraiment qui il était, ils ne voulaient l'admettre en leur pays. Mais ailleurs, les elfes le recevaient volontiers, et bien peu écoutaient les messagers du Lindon, les engageant à la prudence. Car Sauron prit le nom d'Anatar, le seigneur des dons, et son amitié leur fut d'abord extrêmement profitable. Et il leur disait « Hélas pour la faiblesse des grands, car Gil-galad est un grand roi et maître Elrond est sage en toute matière. Pourtant, il refuse de m'assister dans mes labeurs. Serait-ce qu'il ne souhaite pas voir d'autres pays accéder au même bonheur que le leur ? Mais pourquoi la terre du milieu resterait-elle sombre, à jamais désolée, quand les elfes pourraient en faire l'image d'Elessea, que dis-je, du Valinor ? Et si vous n'êtes pas retourné là-bas comme il vous est donné de le faire, n'est-ce pas parce que cette terre du milieu vous est chère tout comme à moi ? Notre devoir n'est-il donc pas de travailler ensemble à l'enrichir et d'élever toutes les peuplades des elfes ici errantes et incultes au même degré de puissance et de connaissance que ceux qui résident au-delà de la mer ? Ce fut en Eregion que les conseils de Sauron furent le plus chaudement accueillis, car les Noldor de cette région étaient toujours soucieux d'ajouter à la finesse et à la subtilité de leurs ouvrages. Du reste, ils n'avaient pas le cœur en paix, car depuis qu'ils s'étaient refusés à retourner dans l'Ouest, ils désiraient à la fois rester en terre du milieu, qu'ils chérissaient en effet, et avoir part au bonheur de ceux qui étaient partis. Et donc ils écoutèrent Sauron, qui leur apprit beaucoup de choses, car son savoir était très grand. L'œuvre des forgerons d'Ost Inedil, en ce temps-là, vint à surpasser toutes leurs précédentes créations. Et ils prirent conseil et forgèrent des anneaux du pouvoir. Mais Sauron dirigeait leurs travaux et savait tout ce qu'il faisait, car il désirait lier les elfes à sa volonté et les amener sous sa vigie. Or, les elfes créèrent de nombreux anneaux, mais Sauron forgea en secret un anneau unique, afin de dominer tous les autres. Et leur pouvoir se trouva lié au sien, lui étant entièrement assujetti, et ne devait durer que tant que lui durerait. Et Sauron fit passer dans cet anneau unique une grande partie de sa force et de sa volonté, car le pouvoir des anneaux elfiques était considérable, et seul un objet suprêmement puissant était à même de les gouverner. Sauron le forgea dans la montagne du feu, au pays de l'ombre. Et lorsqu'il portait l'anneau unique, il savait tout ce qui était fait à l'aide des anneaux de moindre rang, et il pouvait voir dans l'esprit même des porteurs et diriger leurs pensées. Mais les elfes n'étaient pas pour se laisser prendre si aisément. Dès lors que Sauron passa l'anneau unique à son doigt, ils s'avisèrent de sa présence, et ils le reconnurent, et ils surent qu'il projetait d'étendre son empire sur eux et sur toutes leurs œuvres. C'est alors que de peur et de colère, ils retirèrent leurs anneaux. Mais lui, comprenant qu'il était démasqué et que les elfes n'étaient pas dupes, entra dans une grande fureur. Et il leur déclara la guerre et les somma de rendre tous les anneaux que les forgerons elfes n'eussent pu fabriquer sans son savoir et ses conseils. Mais les elfes lui échappèrent, et ils sauvèrent 3 de leurs anneaux, et les emportèrent, et ils les lui cachèrent. Or, il s'agissait des 3 forgés en dernier par les elfes et dotés des plus grands pouvoirs. Narya, Nenya et Vilya, les nommait-on. Les anneaux du feu, de l'eau et de l'air, ornés de rubis, de diamants et de saphirs. Et Sauron désirait les posséder plus qu'aucun autre des anneaux elfiques, car ceux qui les détenaient pouvaient écarter les injures du temps et repousser la lassitude du monde. Mais Sauron ne put les découvrir, car on les plaça entre les mains des sages, qui les dissimulèrent pour ne plus jamais s'en servir ouvertement, tant que Sauron fut en possession du maître anneau. Ainsi les 3 ne portaient aucune souillure, car Celebrimbor seul les avait forgés, et la main de Sauron ne les avait jamais touchés. Pourtant ils étaient, eux aussi, sous la domination de l'unique. Dès lors, Sauron et les elfes ne cessèrent jamais d'être en guerre, et l'Eregion fut dévasté, et Celebrimbor fut tué, et les portes de la Moria se refermèrent. En ce temps-là fut fondé le refuge et le bastion d'Imladris, que les hommes appellent Fandeval, par Elrond le semi-elfe, et il resta longtemps debout. Mais Sauron rassembla à lui tous les anneaux du pouvoir restant, qu'il distribua parmi les autres peuples de la Terre du Milieu, espérant ainsi attirer tous ceux qui avaient soif d'un pouvoir secret, incommensurable avec leur espèce, et les placer sous son emprise. Il offrit 7 anneaux aux nains, mais aux hommes, il en donna 9, car en cela, comme en maint autre chose, les hommes se révélèrent plus pliables à sa volonté. Et il pervertit tous les anneaux qu'il gouvernait, d'autant plus facilement qu'il avait eu part à leur création. Et ils étaient maudits, et finissaient par trahir tous ceux qui en faisaient usage. Les nains, en vérité, se montrèrent tenaces et difficiles à soumettre. Ils supportent mal la domination d'autrui, et leurs cœurs ne peuvent aisément être sondés, aussi ne pouvait-on en faire des ombres. Ils ne se servirent de leurs anneaux que pour ramasser des richesses, mais une irrépressible colère et un impérieux désir de l'or envahirent leurs cœurs et causèrent suffisamment de mal pour que Sauron en tirât profit. On dit qu'un anneau d'or est à l'origine de chacun des 7 trésors des rois des nains. Mais toutes ces richesses ont depuis longtemps été pillées, et les dragons les ont consumées. Quant aux 7 anneaux, certains périrent au feu, d'autres furent repris par Sauron. Les hommes se laissèrent prendre plus facilement. Les détenteurs des 9 anneaux, rois, sorciers et guerriers d'autrefois, devinrent puissants en leur temps. Ils connurent la gloire et la richesse. Toutefois, ce destin se retourna contre eux. Ils semblaient devoir vivre toujours, mais la vie leur devenait insupportable. Ils pouvaient aller et venir, invisibles au regard de tous en ce monde sous le soleil, et percevaient ce qui en d'autres mondes était invisible aux mortels. Mais trop souvent, ils ne voyaient que les fantômes et les illusions de Sauron. Et l'un après l'autre, tôt ou tard, selon leurs forces propres et leur volonté innée, et selon que celle-ci fût bonne ou mauvaise, ils devinrent esclaves de l'anneau qu'ils portaient, et tombèrent sous la domination de l'unique, celui de Sauron. Et ils devinrent définitivement invisibles, sauf pour lui qui détenait le maître anneau, et entrèrent au royaume des ombres. Ils devinrent les Nazgûl, les spectres de l'anneau, les plus terribles serviteurs de l'ennemi. Les ténèbres allaient avec eux, et leur voix était celle de la mort. Or Sauron se gonfla d'orgueil, et bientôt sa convoitise ne connut plus de limites, et il voulut se rendre maître de toute la Terre du Milieu, anéantir les elfes et entraîner, s'il le pouvait, la chute de Númenor. Il ne souffrit plus aucune liberté ni aucun rival, et il se proclama seigneur de la Terre. Il pouvait encore revêtir un masque s'il le désirait, pour mieux tromper le regard des hommes et leur paraître beau et sage. Mais il régnait plutôt par la force et par la peur, dans la mesure où elle pouvait suffire. Et ceux qui virent son ombre s'étendre sur le monde l'appelèrent le Seigneur sombre et le désignèrent comme l'ennemi. Et il ramena sous sa dépendance toutes les créatures issues du règne de Morgoth, qui restaient alors sur terre ou en dessous, et les orques se mirent à ses ordres, proliférant comme des mouches. Ainsi commencèrent les années noires, que les elfes appelèrent les jours de la fuite. À cette époque, un grand nombre d'elfes de la Terre du Milieu s'enfuirent au Lindon et au-delà des mers pour ne jamais revenir. Et beaucoup d'autres furent victimes de Sauron et de ses serviteurs. Mais Gil-galad conservait son pouvoir sur le Lindon, et Sauron n'osait encore franchir les montagnes d'Ered-Luin ni assaillir les Havres. Et Gil-galad pouvait compter sur l'aide des Numénoréens. Ailleurs, Sauron régnait sans partage, et ceux qui entendaient rester libres étaient contraints de chercher asile dans la forêt ou la montagne, où la peur ne laissait pas de les poursuivre. À l'est et au sud, presque tous les hommes se trouvaient sous sa domination, et cette époque les vit construire de nombreuses villes et fortifications de pierre, et ils devinrent forts et nombreux, âpres au combat et armés de fer. Sauron était pour eux un roi et un dieu, et ils le craignaient à l'excès, car il vivait en sa demeure tout entouré de flammes. Mais il vint un jour où l'assaut de Sauron contre les terres occidentales se relâcha, car comme il est raconté dans la Calabeth, la puissance de Numénor défia sa suprématie. Telles étaient la splendeur et la puissance des Numénoréens au zénith de leur royaume que les serviteurs de Sauron reculèrent devant eux, et voulant accomplir par la ruse ce qu'ils ne pouvaient gagner par la force, il quitta un temps la Terre du Milieu et se rendit à Numénor comme otage du roi Tal-Kalion. Et il y demeura jusqu'au jour où ses machinations eurent corrompu la plupart des cœurs du royaume et les eurent retournés contre les Valar, causant ainsi leur perte comme il l'avait longtemps souhaité. Mais leur chute fut plus terrible que Sauron ne l'avait prévu, car il avait oublié la puissance des seigneurs de l'Ouest dans leur courroux. Le monde fut brisé, le pays fut englouti et les mers le recouvrirent, et Sauron lui-même fut précipité dans l'abîme. Mais son esprit en remonta, et, porté par un souffle noir, se glissa de nouveau jusqu'en Terre du Milieu, en quête d'une demeure. Là, il constata que la puissance de Gil-galad s'était beaucoup accrue durant ses années d'absence, et qu'elle recouvrait désormais de vastes régions du nord et de l'ouest, par-delà les montagnes de brume et le grand fleuve, jusqu'à l'orée de Verbois-le-Grand, en quoi elle s'approchait des places fortes qu'il occupait jadis en toute quiétude. Alors Sauron se retira dans sa forteresse du Pays Noir et prépara la guerre. En ce temps-là, ceux des Numénoréens qui échappèrent à la destruction prirent la fuite vers l'est, comme il est raconté dans la Calabeth. Les plus éminents d'entre eux étaient Elendil le Grand et ses fils Isildur et Anarion. C'étaient des parents du roi, des descendants d'Elros, mais ils n'avaient pas voulu écouter Sauron, refusant de faire la guerre aux seigneurs de l'ouest. S'étant embarqués avec tous les fidèles, ils abandonnèrent l'île de Numénor avant la catastrophe. C'étaient de vaillants hommes, munis de grands et solides vaisseaux. Mais la tourmente les rattrapa, des montagnes d'eau les soulevèrent jusqu'aux nuages, et ils descendirent sur la Terre du Milieu comme des oiseaux de tempête. Elendil fut rejeté par les vagues sur la côte du Lindon, où il se lia d'amitié avec Gil-galad. Là, il remonta le fleuve Lune et établit son royaume au-delà des Ered-Luin. Et ses gens et ses mères dans plusieurs régions de l'Eriador, sur les rives du Lune et du Balanduin. Mais sa plus grande cité se trouvait à Anuminas, au bord du lac Nenuyal. Les Numénoréens s'installèrent aussi à Fornost, sur les coteaux du nord, et dans le pays de Cardolan et les collines du Rudaor, et ils élevèrent des tours au sommet des Emin-Beraïd et de la Monsoul. Et tous ces endroits sont parsemés de tertres et d'ouvrages en ruine, mais les tours des Emin-Beraïd regardent encore vers la mer. Isildur et Anarion furent emportés au sud, où ils s'engagèrent enfin sur les eaux du grand fleuve Anduin, qui descend du Rovanion et rejoint la mer de l'ouest dans la baie du Belfalas. Et ils fondèrent un royaume dans ce qui devait s'appeler par la suite le Gondor, tandis que le royaume du Nord se trouvait en Arnor. Longtemps auparavant, alors qu'ils régnaient sur les mers, les marins de Numénor avaient construit un havre et élevé des fortifications autour des bouches de l'Anduin, malgré la présence de Sauron dans le Pays Noir, non loin à l'est. Il y avait déjà quelque temps que ce havre n'était plus fréquenté que par les fidèles de Numénor. Aussi la plupart des habitants des côtes étaient-ils apparentés au moins en partie aux amis des elfes et au peuple d'Elendil, et ils accueillirent ses fils à bras ouverts. La cité la plus importante dans ce royaume du sud était Osgiliath, traversée par les eaux du grand fleuve. Et les Nouménoréens jetèrent là un grand pont sur lequel s'élevaient des tours et des maisons de pierre dont la vue était une splendeur, et de grands navires venaient mouiller l'ancre le long des quais de la cité. Et d'autres places fortes virent le jour de chaque côté. Minas Ithil, la tour de la lune levante, à l'est, sur un épaulement des montagnes de l'ombre, en signe de menace contre le Mordor, et à l'ouest, Minas Anor, la tour du soleil couchant, au pied du mont Mindolwin, en guise de défense contre les hommes sauvages des vallées. La maison des Isildur se trouvait à Minas Ithil, et celle d'Anarion à Minas Anor, mais le royaume était partagé entre eux, et leur trône s'élevait côte à côte dans la grande salle d'Osgiliath. Telles étaient les principales demeures des Nouménoréens au Gondor, mais on leur doit bien d'autres formidables et merveilleux ouvrages, aux Argonath, à Aglarond et à Erech. Et dans le cercle d'Angrenost, que les hommes appelaient Isengard, ils élevèrent le pinacle d'Orthanc, taillé dans l'infrangible roc. Les exilés de Nouménor en avaient rapporté un héritage inestimable, ainsi que de nombreux et fabuleux trésors, dont les plus fameux étaient les sept pierres et l'arbre blanc. Ce dernier était issu du fruit de Nimloth le Beau, qui fleurissait jadis à Armenelos, dans la cour du roi de Nouménor, avant que Sauron le fît brûler. Nimloth, qui descendait de l'arbre de Tirion, fait à l'image de l'aîné des arbres, le blanc Telperion, que Yavanna fit pousser au pays des Valar. L'arbre souvenir des Eldar et de la lumière du Valinor fut planté à Minas Ithil, devant la maison d'Isildur, car c'est lui qui, avant la destruction de Nimloth, en avait recueilli le fruit. Mais l'on se partagea les pierres. Elendil en prit trois, et ses fils en eurent chacun deux. Celles d'Elendil furent placées dans des tours sur les Emin Belaïd, sur l'Amon Sul et dans la cité d'Anuminas. Mais celles de ses fils se trouvaient à Minas Ithil et Minas Anor, ainsi qu'à Orthanc et à Osgiliath. Or, ces pierres avaient ceci de remarquable que ceux qui y regardaient pouvaient y voir des choses éloignées, que ce fût dans le temps ou dans l'espace. En règle générale, elles ne montraient que des choses qui se trouvaient près d'une pierre sœur, car les pierres se répondaient entre elles. Mais ceux dont la volonté et l'esprit étaient assez puissants parvenaient à les orienter dans la direction voulue. Aussi, les Nouménoréens apprenaient-ils maintes choses que leurs ennemis voulaient cacher, et rien ou presque n'échappait à leur vigilance au temps de leur hégémonie. On dit qu'en vérité, les tours des Emin Belaïd ne furent pas construites par les exilés de Nouménor, mais par Gil-galad, à l'intention de son ami Elendil. Et la pierre de vision des Emin Belaïd fut placée au sommet d'Elostirion, la plus haute des tours. Elendil avait coutume de se rendre là-haut quand la nostalgie de l'exilé le prenait, et son regard se portait sur les mers séparatrices, et l'on dit qu'il lui arrivait d'entrevoir au loin la tour d'Avalonné sur Eressëa, où résidait, et réside toujours, la pierre maîtresse. Ces pierres, les Eldar les avaient présentées à Amandil, père d'Elendil, afin de consoler les fidèles des jours sombres qu'ils traversaient, quand les elfes ne purent plus visiter leur pays en proie à l'ombre de Sauron. On les appelait les Palantiri, celles qui regardent de loin. Mais toutes celles que l'on apporta autrefois en terre du milieu ont depuis été perdues. Ainsi donc, les exilés de Nouménor établirent leur royaume en Arnor et au Gondor. Mais ils ne mirent pas longtemps à constater que leur ennemi, Sauron, était également de retour. Il regagna en secret, comme on l'a dit, son ancien royaume de Mordor au-delà de l'Efeldwath, les montagnes de l'ombre, pays voisin du Gondor, sur ses marches orientales. Là, surplombant la vallée de Gorgoroth, était sise son immense et imprenable forteresse, Barad-dûr, la tour sombre. Et au milieu de ce pays se dressait une montagne de feu que les elfes nommaient Orodruin. Ce n'était d'ailleurs pas un hasard si Sauron y avait fixé sa résidence longtemps auparavant, car il se servait du feu qui là-bas jaillissait du sein de la terre pour ses sorcelleries et ses travaux de forge. Et c'est là, au cœur du pays de Mordor, qu'il avait façonné le maître anneau. C'est là qu'il méditait à présent dans le noir, jusqu'à ce qu'il se fût donné une nouvelle forme. Et elle fut terrible, car ces beaux dehors le quittèrent à jamais quand il plongea dans l'abîme lors de la submersion de Numénor. Il reprit possession du grand anneau et se revêtit de son pouvoir. Et il s'en trouvait peu chez les elfes et les hommes, même parmi les grands, pour résister aux maléfices de l'œil de Sauron. Or, Sauron s'apprêtait à faire la guerre aux Eldar et aux hommes de l'Occidental, et les feux de la montagne s'étaient réveillés. Apercevant au loin la fumée de l'Orodruin, donc, les Numénoréens comprirent que Sauron était revenu, et ils donnèrent à cette montagne un nouveau nom, Amon Amarth, le Mont Destin. Et Sauron rassembla à lui une foule de ses serviteurs disséminés à l'est et au sud, parmi lesquels n'étaient pas peu nombreux les hommes de la noble race de Numénor. Car au temps de son séjour là-bas, presque tous les cœurs s'étaient tournés vers les ténèbres, et de tous ceux qui naviguèrent vers l'est à cette époque et bâtirent des forteresses et des habitations sur les côtes, beaucoup étaient déjà soumis à sa volonté, et ils le servirent volontiers lorsqu'ils furent établis en terre du milieu. En raison du pouvoir de Gil-galad, toutefois, ce fut loin dans les terres du sud que s'implantèrent ces seigneurs renégats, tout aussi puissants que malfaisants. Mais deux d'entre eux, Elumor et Fuinur, se hissèrent au pouvoir parmi les Haradrim, un peuple nombreux et cruel qui occupait les vastes terres au sud du Mordor, par-delà les bouches de l'Anduin. Quand donc Sauron sentit son heure venue, il s'abattit de toutes ses forces sur le nouveau royaume de Gondor, et il prit Minas Ithil et détruisit l'arbre blanc d'Isildur qui prospérait là-bas. Mais Isildur s'échappa, emportant une pousse de l'arbre, et il descendit le fleuve avec son épouse et ses fils, naviguant jusqu'aux bouches de l'Anduin, d'où il partit retrouver Elendil. Cependant, Anarion tint Osgiliath contre l'ennemi et le refoula pour un temps dans les montagnes. Mais Sauron rassembla de nouveau ses forces, et Anarion dut reconnaître que, sans l'arrivée de renforts, son royaume ne tiendrait pas longtemps. Or, Elendil et Gil-galad tinrent conseil ensemble, car ils pressentaient que Sauron deviendrait trop fort et qu'il vaincrait tous ses ennemis l'un après l'autre s'ils ne s'unissaient pas contre lui. C'est pourquoi ils firent cette union, que l'on nomme la Dernière Alliance, et ils balayèrent la terre du milieu d'ouest en est et réunirent une grande armée d'elfes et d'hommes. Puis, ils s'arrêtèrent un temps à Imladris. On dit que la terre du milieu ne vit jamais d'armée plus belle ni plus splendidement harnachée que celle qui s'assembla alors à Imladris. Et jamais il n'en fut de plus nombreuse depuis que l'armée des Valar marcha sur le Thangorodrim. D'Imladris, ils franchirent les montagnes de brume par différents cols et descendirent le long du fleuve Anduin et rencontrèrent ainsi l'armée de Sauron sur Dagorlad, la plaine de bataille, qui s'étend devant la porte du Pays Noir. Tous les êtres vivants furent divisés ce jour-là, et des gens de toute espèce, même les oiseaux et les bêtes, se trouvaient dans chacun des camps, à l'exception des elfes. Eux seuls étaient unis sous la bannière de Gil-galad. Les nains furent peu nombreux à se battre d'un côté comme de l'autre, mais les gens de Durin, seigneurs de Moria, le firent contre Sauron. Gil-galad et Elendil remportèrent la victoire, car les elfes étaient encore puissants, et les Numénoréens, grands et forts et redoutables dans leur courroux. Nul ne tenait devant Aeglos la lance de Gil-galad, et l'épée d'Elendil effrayait tant les hommes que les orques, car sa lame luisait sous le soleil et sous la lune, et son nom était Narsil. Alors Gil-galad et Elendil entrèrent au Mordor et encerclèrent la forteresse de Sauron. Et ils l'assiégèrent pendant 7 ans, souffrant de douloureuses pertes par le feu, les flèches et les traits de l'ennemi, et par les nombreuses sorties envoyées contre eux par Sauron. Là, dans la vallée de Gorgoroth, Anarion, fils d'Elendil, fut tué, comme de nombreux autres. Mais le siège finit par l'enserrer de si près que Sauron se présenta en personne, et il lutta contre Gil-galad et Elendil, qui tombèrent l'un après l'autre, et l'épée d'Elendil se brisa sous lui dans sa chute. Mais Sauron aussi fut terrassé, et Isildur, à l'aide du tronçon de Narsil, trancha le maître anneau de la main de Sauron et le réclama pour lui-même. Lors, Sauron fut vaincu pour cette fois, et il abandonna son corps et son esprit s'enfuit au loin. Et il se terra dans la désolation et ne reprit aucune forme visible avant maintes longues années. Ainsi commença le troisième âge du monde, après les jours anciens et les années noires. Et en ce temps-là vivaient encore l'espoir et le souvenir de la gaieté, et pendant longtemps, l'arbre blanc des Eldar fleurit dedans la cour des rois des hommes, car Isildur planta le semis qu'il avait sauvé dans la citadelle d'Anor en mémoire de son frère avant de quitter le Gondor. Les serviteurs de Sauron furent pourchassés et mis en déroute, mais ne furent pas entièrement supprimés. Et si de nombreux hommes avaient désormais renoncé au mal en devenant les sujets des héritiers d'Elendil, ils étaient plus nombreux encore à entretenir la mémoire de Sauron et la haine des royaumes de l'Ouest. La tour sombre fut rasée. Toutefois, ses fondations restaient intactes et elles n'étaient pas oubliées. Les Numenoréens firent d'ailleurs surveiller le Mordor, mais nul n'osa s'installer dans ce pays hanté par le terrible souvenir de Sauron, toujours dominé par la montagne du feu non loin de Barad-dûr. Et la vallée de Gorgoroth était remplie de cendres. Un grand nombre d'elfes et nombre de Numenoréens et d'hommes alliés à ces derniers avaient péri dans la bataille et lors du siège. Et Elendil le Grand était tombé, et le grand roi Gil-galad n'était plus. Jamais plus n'a-t-on assemblé pareille armée, et jamais plus ne sera pareille alliance entre elfes et hommes. Car dans les années qui suivirent le départ d'Elendil, la rupture fut consommée entre les deux peuples. Au cours de cet âge, le maître anneau échappa à la connaissance de tous, même des sages. Toutefois, il ne fut pas détruit, car Isildur refusa de le remettre à Elrond et à Círdan, qui se tenaient à ses côtés. Ils lui conseillèrent de le jeter au feu de Lorodruin tout auprès, là où il avait été forgé, afin qu'il périsse, que le pouvoir de Sauron soit à jamais diminué et qu'il devienne au plus une ombre malfaisante dans les solitudes sauvages. Mais Isildur rejeta ce conseil, disant « Je garderai ceci en réparation de la mort de mon père et de mon frère. N'est-ce pas moi qui ai porté le coup fatal à l'ennemi ?» En outre, l'anneau qu'il tenait lui semblait excessivement beau, et il n'eut pas supporté de le voir détruit. Il le prit donc, et il se rendit d'abord à Minas Anor, où il planta l'arbre blanc en souvenir de son frère Anarion. Mais il n'entendait pas y rester, et après avoir prodigué ses conseils à Meneldil, l'héritier de son frère, à qui il confia l'autorité du royaume du Sud, il emporta l'anneau, qu'il désigna comme l'héritage de sa maison. Puis, il se dirigea au nord, et quitta le Gondor par le chemin qu'Elendil avait pris. Et il abandonna le royaume du Sud, car il se proposait de reprendre celui de son père en Eriador, loin de l'ombre du Pays Noir. Mais Isildur fut assailli par une armée d'orques qui s'était embusquée dans les montagnes de brume, et ils tombèrent sur lui à l'improviste alors qu'il bivouaquait près de Loag Ningloron, les champs de flambes, entre le Vertbois et le grand fleuve, car abandonnant toute prudence, il avait négligé d'installer des gardes, croyant tous ses ennemis vaincus. Presque tous ses gens furent massacrés, dont ses trois fils aînés, Elendur, Aratan et Kirion. Mais son épouse et son plus jeune fils, Valandil, étaient restés à Imladris quand il était parti pour la guerre. Isildur lui-même se sauva grâce à l'anneau, car lorsqu'il le portait, il devenait invisible à tous les regards. Mais les orques le pistèrent à l'odeur et à la trace jusqu'à la rive du fleuve où il plongea. Là, l'anneau le trahit et vengea son créateur, car il glissa du doigt d'Isildur, tandis qu'il nageait et disparut au fond de l'eau. Les orques le virent alors luttant dans le courant et le percèrent de multiples flèches, et il finit ainsi. Trois seuls de ses compagnons repassèrent jamais les montagnes après de longues errances, dont Ottar, son écuyer, à qui il avait confié les fragments de l'épée d'Elendil. En temps voulu, Narsil arriva donc entre les mains de Valandil, l'héritier d'Isildur, à Imladris, mais la lame était brisée et sa lueur éteinte, et elle ne fut pas reforgée. Maître Elrond prédit qu'elle attendrait que le maître anneau soit retrouvé après le retour de Sauron. Mais chez les elfes et les hommes, on espérait que ce jour ne viendrait jamais. Valandil fixa sa résidence à Anuminas, mais son peuple avait été décimé, et les Numenoréens et les hommes de l'Eriador étaient désormais trop peu nombreux pour peupler le pays et occuper tous les ouvrages qu'Elendil avait construits. Sur Dagorlad, au Mordor et au champ de Flambe, main d'entre eux était tombée. Et dès la fin du règne d'Earendur, le septième roi ayant succédé à Valandil, le pays des hommes de l'Occidental, les Dunedain du Nord, se trouva divisé en divers petits royaumes et seigneuries, et leurs ennemis les écrasèrent un à un. Ils ne cessèrent de diminuer au fil des ans, et leur gloire passa, ne laissant que des tertres verts sous les herbes sauvages. À la fin, il ne resta plus d'eux qu'un peuple étrange et secret, qui ne cessait de courir les terres, et les autres hommes ne savaient plus d'où ils venaient, ni quel était le but de leur voyage. Sauf à Imladris, dans la maison d'Elrond, leur lignage était oublié. Néanmoins, les fragments de l'épée furent précieusement conservés sur maintes générations par les héritiers d'Isildur, et leur lignée de père en fils ne fit jamais défaut. Dans le sud, le royaume de Gondor subsista, et sa splendeur fut un temps florissante, jusqu'à rappeler la richesse et la majesté de Numenor avant sa chute. Le peuple du Gondor construisit de hautes tours et des places fortes et des havres aux mains navires, et la couronne ailée des rois des hommes s'attirait la déférence de gens de nombreux pays et langues. L'arbre blanc poussa de longues années devant la maison du roi à Minas Anor, semis de l'arbre qu'Isildur avait apporté de Numenor sur les lieux de la mer, lui-même issu d'Avalonné, et avant cela du Valinor, au jour d'avant les jours, quand le monde était jeune. Mais enfin, à mesure que s'étiolaient les années éphémères de la Terre du Milieu, le Gondor déclina, et la lignée de Meneldil, fils d'Anarion, vint à s'éteindre. Car le sang des Numénoréens se mêla à celui de beaucoup d'autres hommes, et leur pouvoir s'affaiblit, et leur sagesse déchue. Et leurs vies furent raccourcies, et la garde s'assoupit aux confins du Mordor. Et sous le règne de Telemnar, 23e de la lignée de Meneldil, arriva sur un vent sombre venu de l'Est une pestilence, et elle prit le roi et ses enfants, et une grande partie de la population du Gondor en mourut. Puis, les forts qui gardaient le Mordor furent désertés, et Minas Ithil fut vidé de ses habitants. Le mal regagna secrètement le pays noir, et un souffle glacial parut agiter les cendres du Gorgoroth, où des formes sombres se réunissaient. On dit qu'il s'agissait en vérité des Ulairi, que Sauron appelait les Nazgûl, les neuf spectres de l'anneau longtemps restés cachés, et qui, voyant que leur maître recommençait à grandir, revenaient pour lui ouvrir la voie. Et du temps des Arnil, ils frappèrent pour la première fois sortant du Mordor à la nuit par l'école des montagnes de l'ombre, et ils prirent Minas Ithil pour résidence. Et ils en firent un endroit si horrible à voir que nul n'osait y porter le regard. On l'appela alors Minas Morgul, la tour de sorcellerie. Et dès lors, Minas Morgul fut toujours en guerre avec Minas Anor à l'ouest. Puis Osgiliath, déserté depuis longtemps par sa population en déclin, devint un champ de ruines et une cité de fantômes. Mais Minas Anor résistait, et elle prit le nom de Minas Tirith, la tour de garde. Car les rois firent construire là-bas dans la citadelle une tour blanche, belle et altière, et son œil regardait sur un vaste pays. Forte et fière encore était cette cité où l'arbre blanc continuait de fleurir pour un temps devant la maison des rois. Et là, les Numénoréens défendirent les passages du fleuve contre les horreurs de Minas Morgul et contre tous les ennemis de l'Ouest, orques, monstres et hommes malfaisants. Aussi les vastes terres à l'ouest de l'Anduin se trouvaient-elles sous le régide, préservées de la guerre et de la destruction. Minas Tirith résistait encore à la fin du règne d'Earnur, fils d'Earnil, dernier roi du Gondor. C'est lui qui, défié par le seigneur de Morgul, se rendit seul à cheval devant ses portes. Et il l'affronta en combat singulier, mais fut trahi par les Nazgûl et emmené vivant dans la cité du tourment. Et aucun homme de chair et d'os ne le revit plus. Or Earnur ne laissait aucun héritier. Et quand la lignée des rois fit défaut, les intendants de la maison de Mardil le Fidèle régnèrent sur la cité et ce qui restait de son royaume. Et les Rohirrim, les cavaliers du Nord, vinrent peupler la verdoyante contrée de Rohan, qui jusque-là se nommait Calenardon et faisait partie du royaume de Gondor. Et les Rohirrim assistèrent les seigneurs de la cité dans leur guerre. Et au nord, par-delà les chutes du Raoros et les portes des Argonath, se trouvaient encore d'autres défenses, d'antiques puissances dont les hommes savaient peu de choses, et contre lesquelles les esprits ténébreux n'osaient avancer, avant l'heure où leur sombre seigneur Sauron surgirait de nouveau. Et jusqu'à ce qu'elle vînt, jamais plus les Nazgûl n'osèrent franchir le fleuve après la mort des Arnil, ni sortir dehors leurs murs sous une forme visible aux hommes. Tout au long du troisième âge, après la chute de Gil-galad, Maître Elrond demeura à Imladris, et il réunit là-bas de nombreux elfes, mais aussi des sages et des puissants issus de tous les peuples de la Terre du Milieu, et il préserva sur maintes générations d'hommes le souvenir de toute la beauté passée. Et la maison d'Elrond fut un refuge pour les fourbus et les opprimés, et un trésor de prudents conseils et de sages éruditions. Chez lui, les héritiers des Isildur trouvèrent un toit, dans l'enfance comme dans le vieil âge, en raison de leur lien de sang avec Elrond lui-même, et parce que la sagesse lui disait qu'il viendrait de leur lignée un homme à qui un grand rôle serait dévolu dans les derniers événements de cet âge. Et jusqu'à ce que ce jour arrivât, les fragments de Narsil furent confiés à la garde d'Elrond, alors que les Dunedain vivaient des jours sombres et devenaient un peuple vagabond. En Eriador, les hauts elfes avaient fait d'Imladris leur résidence de prédilection. Mais au havre gris du Lindon demeurait un autre vestige du peuple de Gil-galad, le roi elfe. S'il s'aventurait parfois dans les terres de l'Eriador, il restait la plupart du temps sur les rivages de la mer, veillant à la construction et à l'entretien des navires elfes, à bord desquels ceux des premiers-nés qui se lassaient du monde faisaient voile dans l'ouest absolu. Círdan le charpentier de Nef était seigneur des havres et puissant parmi les sages. Des trois anneaux que les elfes gardaient par-devers eux sans aucune souillure, on ne parla jamais ouvertement chez les sages, et bien peu savaient, même chez les Eldar, à qui ils étaient impartis. Mais leur pouvoir, après la chute de Sauron, ne cessa jamais d'être à l'œuvre, et là où ils demeuraient, la gaieté subsistait de même, et toute chose restait insensible aux injures du temps. C'est pourquoi, avant la fin du troisième âge, les elfes surent que l'anneau de saphir était auprès d'Elrond, dans la vallée de Fandeval, où les étoiles du firmament brillaient sur sa maison comme en nul autre endroit, tandis que l'anneau de diamant se trouvait dans le pays de Lorienne, où vivait la dame Galadriel. Elle était reine des elfes des bois et épouse de Celeborn du Doriath. Mais c'était avant tout une Noldo qui se souvenait du jour avant les jours en Valinor, la plus puissante et la plus belle de tous les elfes vivant encore en Terre du Milieu. Mais l'anneau rouge demeura caché jusqu'à la fin, et nul ne savait qui en était le dépositaire, hormis Elrond, Galadriel et Círdan. Tant que dura cet âge, donc, la beauté et la félicité des elfes fut préservée intacte au sein de deux domaines, à Imladris et en Lothlorien, le pays caché entre la Celebrant et l'Anduin, où les arbres étaient chargés de fleurs d'or et où n'entra jamais ni orque ni créature malfaisante. Des voix s'élevaient néanmoins chez les elfes, prédisant que si un jour Sauron devait reparaître, soit il trouverait le maître anneau jadis perdu, ou au mieux ses ennemis le découvriraient et le détruiraient. Mais dans tous les cas, le pouvoir des trois s'éteindrait, et tout ce qu'il préservait s'évanouirait, et ce serait le crépuscule des elfes et l'avènement de la domination des hommes. Et c'est ainsi qu'il en advint. Depuis, l'unique, les sept et les neuf ont été détruits. Les trois sont passés outre, et avec eux le troisième âge a pris fin. Et c'en est fait de l'histoire des Eldar en Terre du Milieu. Ce furent donc les années de l'évanescence, alors que la dernière floraison des elfes à l'est de la mer entrait dans son hiver. En ce temps-là, les Noldor parcouraient encore les terres citérieures, les plus beaux et les plus puissants des enfants du monde, et leur langue chantait encore aux oreilles des mortels. Il restait alors sur terre beaucoup de choses belles et merveilleuses, et beaucoup de mauvaises et de terribles. Des orques y vivaient encore, et des trolls, des dragons et des bêtes sanguinaires, et au fond des bois, d'étranges créatures sages et anciennes dont les noms sont oubliés. Et les nains œuvraient encore dans les montagnes et façonnaient d'un patient labeur des ouvrages de métal de pierre qui sont sans égal de nos jours. Mais la domination des hommes approchait, et l'époque était au changement, quand le seigneur sombre ressurgit enfin au bois de Grand-Peur. Or, cette forêt se nommait jadis Verbois-le-Grand, et ses hautes voûtes et ses allées étaient le repère de toutes sortes de bêtes et d'oiseaux aux champs clairs. Et là se trouvait le domaine du roi Thranduil, sous le hêtre et le chêne. Mais après de longues années qui virent s'écouler près d'un tiers de cet âge du monde, une ombre venue du sud s'étendit lentement à travers le bois, et la peur rôda dans les clairières enténébrées. Des bêtes féroces se mirent en chasse, et des créatures maléfiques y dressèrent leurs cruels pièges. On changea alors le nom de la forêt, que l'on appela Grand-Peur, car les ombres nocturnes y étaient épaisses, et rarement osait-on la traverser, sinon dans le nord, où les gens de Thranduil tenaient encore le mal en respect. Nul ne savait guère d'où venait celui-ci, et il fallut longtemps pour que les sages eux-mêmes le découvrissent. C'était l'ombre de Sauron, et le signe de son retour. Car il avait quitté les déserts de l'Est pour s'établir dans le sud de la forêt, où il grandissait peu à peu, reprenant forme. Là, il investit une sombre colline et s'adonna à sa sorcellerie, et tous se mirent à craindre le sorcier de Dol Guldur, sans pour autant se douter du grave péril qui les guettait. Tandis même que les premières ombres se faisaient sentir à Grand-Peur, dans l'ouest de la terre du milieu apparurent les Istari, que les hommes appellent les magiciens. Nul ne savait alors d'où ils venaient, hormis Círdan des Havres, et il n'y eut qu'à Elrond et à Galadriel qu'il le révéla, car ils étaient venus sur la mer. Mais l'on dit plus tard chez les elfes que c'étaient des messagers envoyés par les seigneurs de l'Ouest pour contester le pouvoir de Sauron, s'il devait réapparaître, et pour exhorter les elfes et les hommes et tous les êtres de bonne volonté aux actes de vaillance. Ils revêtaient la semblance d'hommes, vigoureux en dépit de leur grand âge, et ils changeaient peu avec les années et ne vieillissaient que lentement, malgré la charge qui pesait sur eux. Ils étaient doués d'une grande sagesse et pouvaient compter sur les nombreux pouvoirs de leur esprit et de leurs mains. S'ils voyagèrent longtemps parmi les elfes et les hommes de tout pays, ils s'entretenaient aussi avec les oiseaux et les bêtes, et les peuples de la terre du milieu leur donnèrent de nombreux noms, car ils scellèrent leurs noms véritables. Les deux plus éminents se nommaient Mithrandir et Curunir parmi les elfes. Dans le nord, les hommes les appelaient Gandalf et Saruman. Curunir était l'aîné des deux, et il vint en premier, et après lui vinrent Mithrandir et Radagast, et d'autres Istari qui passèrent dans l'est de la terre du milieu et qui n'entrent pas dans ses comptes. Radagast était l'ami de tous les oiseaux et bêtes, mais Curunir allait surtout parmi les hommes. Il avait le verbe subtil et était habile dans tous les artifices de la forge. Mithrandir avait le plus d'affinité avec Elrond et les elfes. Ses voyages l'amenèrent loin dans le nord et dans l'ouest, et il ne se fixa jamais dans aucun pays. Mais Curunir se rendit dans l'est, et à son retour, il s'établit à Orthanc, dans l'anneau d'Isengard, édifié par les Numénoréens au temps de leur hégémonie. Mithrandir fut toujours le plus vigilant, et ce fut lui qui interrogea les ténèbres de Grand-Peur avec le plus grand zèle, car si beaucoup étaient d'avis que les spectres de l'anneau en étaient les instigateurs, lui craignait que ce ne fût bel et bien la première manifestation du retour de Sauron. Et il se rendit à Dol Guldur, et le sorcier s'enfuit à sa venue, et une paix vigilante s'installa. Mais après de longues années, l'ombre revint enfin, et son pouvoir augmenta. Et en ce temps-là se réunit une première fois ce conseil des sages, que l'on nomme le Conseil Blanc, où prenaient part Elrond, Galadriel et Círdan, et d'autres seigneurs des Eldar, ainsi que Mithrandir et Curunir. Et Curunir, autrement appelé Saruman le Blanc, fut choisi pour en être le chef, car pour les avoir longtemps étudiés, il connaissait mieux que quiconque les artifices de Sauron autant jadis. À vrai dire, Galadriel eût souhaité que Mithrandir fût à leur tête, et Saruman leur en tint rancune, emporté par son orgueil et son désir de suprématie. Mais Mithrandir refusa cette charge, désirant rester libre de toute attache et de toute allégeance, sauf envers ceux qui l'envoyaient, et refusant de se fixer à demeure ou de devoir répondre à quelque assignation. Mais Saruman commença d'étudier la tradition des anneaux du pouvoir, leur fabrication et leur histoire. L'ombre à présent ne cessait de croître, et un nuage greva le cœur d'Elrond et de Mithrandir. Et donc Mithrandir, au mépris du danger, décida un jour de retourner à Dol Guldur et dans les basses fosses du sorcier, où il put avérer ses craintes avant de s'échapper. Puis, allant trouver Elrond, il dit
« Ce que nous redoutions, hélas, est vrai. Il ne s'agit pas d'un des Ulairi, comme beaucoup l'ont longtemps cru. C'est Sauron en personne qui a de nouveau pris forme et grandi rapidement. Il a entrepris de rassembler tous les anneaux à lui, et il cherche incessamment des nouvelles de l'unique et des héritiers d'Isildur, si l'on est encore sur terre. »
Et Elrond répondit « Dès lors qu'Isildur s'empara de l'anneau et ne voulut point le remettre, ce destin fut scellé, que Sauron un jour reviendrait. »
« Mais l'unique a été perdu, » dit Mithrandir, « et tant qu'il demeure caché, nous pouvons soumettre l'ennemi, si nous rassemblons nos forces et n'attendons pas trop. »
Alors le Conseil Blanc fut appelé à se réunir, et Mithrandir les engagea à la célérité, mais Kurunir parla contre lui, et il leur conseilla d'attendre encore et d'observer.
« Car je ne crois pas, » dit-il, « que l'unique sera jamais retrouvé en terre du milieu. Il est tombé dans l'Anduin, et il y a longtemps, m'est avis, qu'il fut charrié jusqu'à la mer. Il y restera jusqu'à la fin, quand tout ce monde sera brisé jusqu'aux profondeurs. »
Rien ne fut donc entrepris à ce moment-là. Mais Elrond eut un mauvais pressentiment, et il dit à Mithrandir,
« L'unique, je le crains, n'en sera pas moins retrouvé. Puis la guerre reviendra, et dans cette guerre cet âge prendra fin. Oui, il finira sous de secondes ténèbres, à moins d'un étrange hasard que mes yeux ne voient pas et qui viendrait nous délivrer. Étrange, certes, mais le monde en est rempli, dit Mithrandir, et souvent la main des faibles agira là où les sages sont impuissants.
Aussi les sages étaient-ils inquiets. Mais pour lors, aucun d'eux ne comprit la perfidie de Kurunir, dont la pensée s'était déjà tournée vers les ténèbres. Car il convoitait le grand anneau pour lui seul et entendait le retrouver, afin de soumettre grâce à lui le monde entier à sa volonté. Trop longtemps s'était-il penché sur les agissements de Sauron en espérant le défaire. Et voici qu'il l'enviait et le regardait comme un rival au lieu de réprouver ses œuvres. Et il jugeait que l'anneau, qui appartenait à Sauron, chercherait à retrouver son maître s'il continuait de se manifester. Or, si on le chassait, l'anneau resterait caché. Kurunir était donc prêt à jouer avec le feu, en le laissant agir quelque temps à sa guise, misant sur sa propre ruse pour doubler et ses alliés et son ennemi quand l'anneau réapparaîtrait. Il fit surveiller les champs de flambes, mais il ne tarda pas à découvrir que les serviteurs de Dol Guldur étaient dans la région à ratisser tous les replis du fleuve. Il comprit que Sauron avait appris à son tour comment Isildur avait trouvé la mort. Alors il prit peur, et il se retira dans Isengard et le fortifia. Et il s'immergea toujours plus dans la tradition des anneaux du pouvoir et dans l'art de les forger. Mais il ne dit rien de tout cela au conseil, gardant toujours espoir d'apprendre le premier où se trouvait l'anneau. Il se munit d'une horde d'espions, dont beaucoup étaient des oiseaux, car Radagast lui apporta son aide, ne devinant rien de sa traîtrise et n'y voyant qu'une nouvelle manœuvre pour surveiller l'ennemi. Mais l'ombre de grand-peur ne cessait de s'épaissir, et Dol Guldur attirait tous les êtres maléfiques des plus sombres endroits du monde. Et ils étaient de nouveau unis par une même volonté, dirigeant leur malveillance contre les elfes et les survivants de Númenor. Le conseil fut donc à nouveau réuni, et la tradition des anneaux fut beaucoup débattue. Mais Mithrandir s'adressa au conseil en ces mots.
« L'anneau n'a pas à être découvert, car tant qu'il restera sur terre et ne sera pas détruit, le pouvoir qu'il recèle survivra, et Sauron grandira sans jamais perdre espoir. » La puissance des elfes et des amis des elfes n'est plus ce qu'elle était. Bientôt, il sera trop fort pour vous, même sans le grand anneau, car il régit les neuf, et du nombre des sept, il en a récupéré trois. Il faut attaquer.
Cette fois, Kurunil ne s'y opposa pas. car il préférait que Sauron fût chassé de Dol Guldur, qui se trouvait non loin du fleuve, afin qu'il n'eût plus le loisir de conduire là-bas ses recherches. Et donc, pour la dernière fois, il vint en aide au conseil qui réunit ses forces, et ils assaillirent Dol Guldur et boutèrent Sauron hors de son repère, et la forêt de Grand-Peur retrouva un temps sa santé. Mais ils avaient frappé trop tard, car le Seigneur Sombre l'avait prévu, et tous ses mouvements étaient prêts de longue date. Et les Ulairi, ses 9 serviteurs, étaient partis avant lui afin de préparer sa venue. Sa fuite n'était donc qu'une feinte. Il ne tarda pas à revenir, et avant que les sages eussent pu l'en empêcher, il rentra dans son royaume du Mordor et dressa de nouveau les sombres tours de Barad-dûr. Cette année-là, le conseil se réunit une dernière fois, et Curunnil se retira à Isengard et ne tint plus conseil qu'avec lui-même. Les orques se rassemblaient, et des peuplades entières s'armaient, loin, à l'est et au sud. Et tandis que grandissaient la peur et les bruits de guerre, le pressentiment d'Elrond se réalisa. L'anneau unique fut bel et bien retrouvé, par un hasard encore plus étrange que Mithrandir lui-même ne l'avait imaginé. Mais il échappa à la vigilance de Curunnil et de Sauron, car il avait été retiré de l'Anduin longtemps avant le début de leurs recherches, trouvé par l'une des petites gens des peuples pêcheurs établis près du fleuve, avant même la fin des rois au Gondor. Et son nouveau propriétaire le mit hors de portée en l'emportant dans une sombre cachette sous les racines des montagnes où il demeura longtemps. Il fut à nouveau découvert dans l'année même où Dol Guldur fut attaqué par un voyageur que les orques avaient pris en chasse et qui s'était enfui jusqu'aux profondeurs de la terre. Et il passa alors dans une contrée lointaine jusque dans le pays des Perianath, les petites gens ou demi-hommes qui vivaient dans l'ouest de l'Eriador. Avant ce jour, les elfes et les hommes en avaient fait bien peu de cas, et ni Sauron, ni aucun des sages, sauf Mithrandir, n'avaient pensé à eux dans tous leurs conseils. Or, par chance, mais aussi grâce à sa vigilance, Mithrandir fut le premier à avoir vent de l'anneau avant que Sauron en fût averti. Cette découverte pourtant le troubla et l'accabla de doutes. Car cette chose avait un pouvoir trop grand et trop maléfique pour qu'aucun des sages songeât à s'en servir, à moins de vouloir devenir à son tour, comme Curunnil, un tyran et un ténébreux seigneur. Mais on ne pouvait non plus le soustraire indéfiniment au regard de Sauron, ni le détruire par aucun pouvoir des elfes. Aussi Mithrandir, avec l'aide des Dunedain du Nord, fit-il surveiller le pays des Perianath, attendant son heure. Mais Sauron avait pour lui bien des oreilles, et il entendit bientôt parler de l'unique qu'il désirait par-dessus tout, et il envoya les Nazgûl afin de le reprendre. Puis la guerre éclata, et le troisième âge s'acheva comme il avait commencé, dans un combat contre Sauron. Mais ceux qui assistèrent aux événements de cette époque, à ses prouesses et à ses prodiges, ont raconté ailleurs l'histoire de la guerre de l'anneau et comment elle prit fin, dans une victoire inattendue et un chagrin pressenti de longue date. Nous dirons ici que, en ce temps-là, l'héritier d'Isildur se leva dans le nord, qu'il prit les fragments de l'épée d'Elendil et qu'à Imladris, ils furent à nouveau forgés. Puis, il alla à la guerre et se révéla un grand capitaine des hommes. C'était Aragorn, fils d'Arathorn, le 39e héritier dans la droite lignée d'Isildur, pourtant plus proche d'Elendil qu'aucun autre de ses pères. Le Rohan fut assailli, Curunnir le traître fut renversé, et Isengard fut brisé. Et devant la cité du Gondor fut livrée une grande bataille, et le seigneur de Morgul, capitaine de Sauron, y fut relégué aux ténèbres. Et l'héritier d'Isildur conduisit l'armée de l'Ouest devant les portes noires du Mordor. À cette ultime bataille, prenaient part Mithrandir et les fils d'Elrond, et le roi du Rohan, et les seigneurs du Gondor, et l'héritier d'Isildur avec les Dunedain du Nord. Là, ils firent enfin face à la mort et la défaite, et tout leur courage se révéla vain, car Sauron était trop fort. Mais à ce moment précis se vérifièrent les paroles prononcées par Mithrandir, et la main des faibles agit là où les sages étaient impuissants. Car comme bien des chants l'ont célébré depuis, les Perianath, les petites gens, qui vivaient au flanc des collines et au milieu des prés, leur apportèrent la délivrance. Car Frodo, le demi-homme, dit-on, endossa le fardeau à la demande de Mithrandir, et seul avec son serviteur, bravant le danger et les ténèbres, il échappa au regard de Sauron et arriva enfin au mont d'Estaing. Et le grand anneau du pouvoir retourna au feu où il avait été forgé, et fut enfin détruit, et son maléfice fut consumé. Alors Sauron échoua, et il fut entièrement vaincu et se dissipa comme une ombre malévole. Et les tours de Barad-dûr s'effondrèrent, et la rumeur de leur chute fit trembler de nombreux pays. Ainsi, la paix fut rétablie, et un nouveau printemps s'ouvrit sur la terre. Et l'héritier d'Isildur fut couronné roi du Gondor et de l'Arnor, et la puissance des Dunedain fut exaltée, et leur gloire renouvelée. L'arbre blanc fleurit de nouveau dans la cour de Minas Anor, car Mithrandir découvrit un semis dans les neiges du blanc Mindolouin qui dominait la cité du Gondor. Et tant qu'il poussa là-bas, le souvenir des jours anciens persista dans le cœur des rois. Or, rien de tout cela n'eût été accompli sans les conseils et la vigilance de Mithrandir, qui, dans les derniers jours, apparut comme un seigneur d'une grande majesté, de blanc vêtu, chevauchant à la bataille. Mais ce ne fut qu'au moment de son départ que l'on sut qu'il avait longtemps gardé l'anneau rouge, l'anneau du feu, d'abord confié à Kildan, le seigneur des Havres. Ce dernier l'avait cédé à Mithrandir, car il savait d'où il venait et où il retournerait en dernier lieu. « Prends cet anneau, lui dit-il, car tes labeurs seront durs et ta charge pesante, mais il te confortera en tout et te gardera de la fatigue, car ceci est l'anneau du feu, et peut-être pourras-tu avec lui rallumer la valeur d'antan dans les cœurs d'un monde qui se refroidit. Mais moi, mon cœur est auprès de la mer, et je resterai sur ses rivages gris et garderai les Havres jusqu'au dernier navire. Alors, je t'attendrai. » C'était un navire blanc, et il fut longtemps sur le chantier, et longtemps il attendit la fin que Kildan avait présagée. Mais lorsque tout fut accompli, que l'héritier d'Isildur devint seigneur des hommes et que l'Ouest passa sous son règne, il apparut tout aussi nettement que le pouvoir des trois anneaux avait pris fin. Et aux yeux des premiers-nés, le monde se fit vieux et gris. En ce temps-là, les derniers des Noldor s'embarquèrent au Havre, laissant la terre du milieu pour toujours. Et derniers de tous, les gardiens des trois anneaux chevauchèrent jusqu'à la mer, et Maître Elrond prit le navire apprêté par Kildan. Un soir d'automne, il quitta les rivages du Mithlond, et bientôt les océans du monde courbé se dérobèrent sous lui, et les vents du ciel arrondis n'agitèrent plus ses voiles. Porté dans les hauts airs au-dessus des brumes du monde, il passa dans l'ancien Ouest, et s'en fut fait des Eldar, des histoires et des chants.